Chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous saluer aujourd'hui au début de ce dernier cours d'iconologie dans le cadre de l'enseignement de cette année académique qui va se terminer bientôt. Et avant toute autre chose, je voulais vous parler brièvement de quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie et qui m'a beaucoup aidé et plu. Vous avez peut-être entendu qu'il y a eu, il y a seulement 2 semaines, un événement en Roumanie, à Bucarest, qui a marqué, je pense, le public, parce que il y a eu donc, pour le dire brièvement, entre le 20 et le 24 mai, une conférence internationale sur l'icône orthodoxe qui a été organisée par le patriarcat donc de Roumanie sous la présidence de sa béatitude, le patriarche Daniel. Et je peux dire que c'était un événement, je pense, majeur dans la vie des institutions de l'enseignement théologique orthodoxe de nos jours, parce que on a pu se convaincre que l'iconologie, si j'ose dire, ou la théologie de l'icône est quelque chose qui est maintenant enseigné dans la plupart de nos institutions et nos facultés théologiques. Ce qui était particulièrement intéressant, c'est que grâce à cette conférence, on a pu se rendre compte davantage à quel point l'iconographie orthodoxe a progressé, je dirais, a été approfondie et améliorée, si on peut dire, pendant ces derniers 10 ans, 15, 20 ans. Parce que je me rappelle personnellement une époque à laquelle je venais de temps en temps en Roumanie et où ce renouveau de la peinture d'icônes en Roumanie était à son tout au début. C'était tout au début et je me rappelle des premières rencontres à ce propos qui, en ce qui me concernait, avaient surtout lieu à Cluj, parce que c'était là où j'avais des amis, j'avais des étudiants dans l'Institut Saint-Serge qui venaient de Cluj, et pour ne pas le nommer, c'était avant tout Domnul Vasile Mania, qui était mon étudiant et qui est aujourd'hui éditeur. Il a une maison d'édition qui s'appelle Patmos et qui a traduit un bon nombre de livres théologiques de nos professeurs de Saint-Serge. Parmi ceux-là aussi, votre humble serviteur. Et donc, il y a tout un mouvement qui, aujourd'hui, est attesté par une foule de faits qu'on peut observer. Notamment, pendant cette conférence qui a eu lieu donc à Bucarest, entre le 20 et le 24 mai, nous avons eu l'occasion de visiter des églises récemment peintes dans la capitale, et je peux dire que c'était, on a pu se convaincre et être impressionné par la qualité de la peinture d'icônes et de fresques ou de peinture murale dans tous les cas de figure, et de sa qualité dans la Roumanie contemporaine. J'ai vu aussi quelques d'autres exemples des fois même assez étonnants par une certaine modernité. Et donc, on peut dire que toute cette conférence a été un grand succès parce que les gens sont venus d'un peu partout, du Canada, de la Russie, de France, d'Allemagne, d'Italie, évidemment de Grèce. Donc tous ces gens qui étaient essentiellement, quand même, évidemment la majorité était de nationalité roumaine, mais qui vivent aussi en Europe occidentale en partie, et tous ont été animés par ce désir de participer au renouveau de la peinture d'icônes. Alors, évidemment, une des questions clés de toute cette conférence a été comment et dans quelle mesure est-il non seulement souhaitable, mais même possible d'innover, entre guillemets, innover dans la peinture d'icônes qui, Dieu sait, est une tradition ancienne et dont on se demande, certains se demandent des fois s'il n'est pas temps de faire évoluer un peu, que sais-je, l'iconographie, le style, etc. Et là-dessus, il y a eu des conférences tout à fait passionnantes. D'ailleurs, je pense que les différentes conférences qui ont été prononcées pendant cette conférence vont être publiées, je pense, éventuellement, surtout en langue roumaine. Mais donc, il y a eu des discussions parce que nous savons que dans différentes églises locales orthodoxes, notamment en Grèce, il y a maintenant des tendances qui voudraient s'orienter vers un renouveau qui dépasse un peu ce que a représenté en Grèce cet homme extraordinaire, Fotios Kondoglou, qui a été un ami de mon maître Leonid Ouspensky. Il y a une correspondance entre ces deux grands théologiens et peintres d'icônes. Mais aujourd'hui, nous disait quelqu'un, et c'est tout ça, c'est bien gentil, mais ça ne suffit plus. Et alors, il a eu la question, comment envisager ce renouveau? Il y avait différentes propositions, et juste pour vous montrer un peu par la gravité de la situation, c'est que il y avait des gens qui ont tout à fait sérieusement ont dit que bon, c'est très gentil toutes ces histoires byzantines, mais il y a aussi l'art moderne, il y a la peinture du XXe siècle, ne faut-il pas s'ouvrir, n'est-ce pas, à ce monde de la peinture contemporaine, etc., etc. Alors, pour ne pas vous fatiguer par trop de détails, je voudrais dire que le jour où ceci a été le sujet principal des discussions, on m'a demandé à la fin de m'exprimer sur cette question aussi, et je l'ai fait, et je voulais tout simplement vous transmettre ce que j'ai dit, parce que je pense que c'est quand même important. Il ne faut pas se méprendre sur l'idée du renouveau. Le renouveau est quelque chose qui doit être le résultat d'une recherche sincère, modeste et profonde. Et ce qu'il faut chercher pour qu'il y ait un renouveau, ce n'est pas du nouveau à tout prix, et ce n'est pas telle et telle adaptation de certains éléments de l'art moderne. C'est de vouloir intérieurement approfondir les sujets qui existent, on peut dire, depuis toujours dans l'iconographie orthodoxe, et de voir comment de nos jours, comment les proposer à nos contemporains. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est chercher consciemment et visiblement quelque chose de nouveau en tant que tel. Comme si la nouveauté pouvait être un bien en soi. Alors, je leur ai dit, vous savez, et j'ai terminé là-dessus, travaillez, approfondissez, mais ne cherchez pas la nouveauté pour elle-même, parce que les vraies nouveautés apparaissent de façon d'abord inapercevable. Et c'est vrai, je pense, dans tout art, mais c'est particulièrement vrai dans la peinture d'icônes. Voilà mon petit récit à propos de cette belle conférence à Bucarest. J'ai eu aussi la possibilité d'être un des conférenciers de cette conférence de conférenciers. Et je me suis dit que pour vous faire encore participer davantage à cet bel événement, de vous partager aujourd'hui ma contribution à cette conférence pour justement clore cette année académique. Oui, il y a encore quelque chose que je ne veux surtout pas oublier. Mon sujet s'appelle, et le sujet donc que j'ai traité pendant la conférence, ça s'appelait, j'ai parlé en français. Le titre de ma petite contribution, c'était Vladimir Lossky, théologien de l'icône. Alors, à ce propos, j'ai eu une surprise très 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 agréable. Vous savez, et je pense que vous connaissez en majorité ce livre qui est paru en 1953, d'abord en anglais et en allemand. Ça s'appelait en anglais, ça s'appelait The Meaning of Icons, Der Sinn der Ikonen en allemand. Et ce livre a été écrit par les deux amis, Vladimir Lossky et Leonid Uspensky. Je connais Vladimir Lossky seulement grâce à Leonid Uspensky, son ami, puisque Vladimir Lossky est décédé en 1958 et moi je suis arrivé à Paris seulement en 1959. Donc il se trouve que ce livre qu'ils ont publié tous les deux et qui a été un événement qui a été salué par Georges Floros, qui est quand même un événement majeur dans la théologie orthodoxe contemporaine. Ce livre, je l'ai trouvé dans la librairie du Patriarcat et il s'appelle en roumain comment ?
Calauzi Lumea Icoanei.
Voilà. Il s'appelle comme ça. Il existe donc ce livre en roumain et tous ceux qui ont la possibilité de demander à leurs parents ou à leur famille d'acheter ce livre en Roumanie, demandez-leur qu'ils l'achètent et qu'ils vous envoient ce livre, parce que ce livre est un livre majeur pour tous ceux qui veulent connaître et étudier l'iconographie orthodoxe et la théologie de l'icône. Voilà. Donc, n'oubliez pas ce livre, parce qu'il est vraiment très très précieux. C'est une excellente édition, avec, il paraît, une excellente traduction, et vous serez étonné par la richesse de ce livre. Et maintenant, je vais donc dire quelques mots sur le deuxième auteur de ce livre, Vladimir Lossky, qui, comme vous savez, a été un des théologiens orthodoxes russes les plus connus et qui est malheureusement décédé très tôt. Et nous sommes tous retrouvés un peu orphelins après son décès. Voilà, donc ce livre, et ce que je voulais vous dire, c'est que célébré à juste titre un an après sa mort prématurée, comme théologien de la personne du Saint-Esprit, Vladimir Lossky a commencé beaucoup réfléchi sur le moment de l'image dans la connaissance de Dieu et de l'homme. dont l'étude publiée à titre posthume est intitulée « La théologie de l'image », il rappelle avec force que, je cite, « ce moment de l'image dont la connaissance de Dieu et de l'homme a une si grande importance pour la pensée chrétienne que l'on peut à bon droit parler d'une théologie de l'image dans le Nouveau Testament ou chez tel ou tel auteur chrétien, sans risquer d'hypertrophier un élément doctrinal de valeur secondaire. » Et le premier exemple qui lui vient tout naturellement à l'esprit concerne la communion trinitaire et plus précisément le Verbe en tant qu'image consubstantielle au Père. En effet, si le Logos est l'image faisant connaître l'archétype paternel, tous les problèmes relatifs à la manifestation divine cosmique dans la nature créée par le Verbe ou historique dans la révélation donnée à un peuple élu pour percevoir la parole de Dieu appartiendront à la théologie de l'image au sens propre du mot. Si l'homme est logikos, s'il est à l'image du logos, tout ce qui concerne la destination de l'être humain, la grâce, le péché, la rédemption par le Verbe devenu homme, devra se rapporter également à la théologie de l'image. Et l'on pourrait dire la même chose de l'Église, des sacrements, de la vie spirituelle, de la sanctification et également de la fin dernière. En fait, il n'y a pas une branche de l'enseignement théologique qu'on pourrait isoler complètement du problème de l'image sans courir le risque de la séparer du tronc vivant de la tradition chrétienne. Puis, Loski insiste, le thème de l'image doit appartenir à l'essence du christianisme, lorsqu'il est étroitement lié à la condition de personne, qui s'entend alors à l'ensemble du composé humain, sans exclure la tunique des peaux. Quand Loski dit à l'essence du christianisme, il fait allusion au livre de quelques protestants allemands du 19e siècle, début du 20e siècle, qui avaient écrit des livres sur l'essence du christianisme, d'un point de vue protestant, bien sûr, et où, de toute évidence, il n'était pas question ni de l'art ecclésial, ni d'icône. Alors, en somme, constatait Olivier Clément en relisant des notes prises à l'un des derniers cours de Vladimir Loski, pour lui, dit Clément, l'exégèse patristique de l'image s'efforçait de cerner le moment personnel en l'homme. Quant au maître, à Loski lui-même, il concluait son cours par cette belle affirmation « L'image de Dieu, c'est l'homme en tant que personne. » Je répète, « L'image de Dieu, c'est l'homme en tant que personne. » Aujourd'hui, avec le recul de presque 60 ans qui nous sépare de son décès, nous pouvons constater que grâce à son érudition, grâce à la rigueur et à la clarté de son argumentation, et surtout par sa fidélité indéfectible à la pensée des pères de l'Église, Vladimir Loski est l'un des plus écoutés parmi les théologiens de notre siècle. Didaskalos de l'économie hypostatique du Saint-Esprit, de l'irréductibilité de toute personne à sa nature comme fondement d'une relation particulière de l'homme à Dieu, Vladimir Loski fait figure aujourd'hui avec les pères Georges Flaros, qui son aîné de 10 ans, et Jean Meindorf, son cadet de 20 ans, du plus parisien des trois docteurs russes de l'école néopatristique orthodoxe du XXe siècle. Puis, à SME, aux États-Unis, de l'école néopatristique orthodoxe qui avait ses racines profondes dans la Russie du XIXe siècle et qui a fleuri à Paris au milieu du XXe siècle. puis à essaimer aux États-Unis et dans le monde entier pour accomplir sous nos yeux un retour chez elle tout aussi discret qu'efficace en vue de la Russie du 21e siècle. En un mot, la réputation de patrologue et de dogmaticien de Vladimir Vostok n'est plus à faire. Elle est pleinement reconnue non seulement dans les églises de l'émigration russe sur tous les continents et en Russie même, mais tout autant dans les Balkans et au Proche-Orient. En revanche, ce que l'on sait moins, et surtout en France d'ailleurs, c'est que Vladimir Vostok, ancien boursier de l'Institut Kandakov à Prague, fut aussi théologien de l'icône, au sens propre du mot, c'est-à-dire de l'image liturgique spécifiquement chrétienne et orthodoxe. C'est ça l'icône, n'est-ce pas ? L'image liturgique spécifiquement chrétienne et orthodoxe. En effet, en 1952, Léonid Ouspensky et son ami Vladimir Vostok, tous les deux à la fois chevaliers ardents de la confrérie Saint-Phocios, qui dans les années 1930 avait vigoureusement combattu l'hérésie sophiologique et qui étaient tous les deux professeurs à l'Institut Saint-Denis, qui dispensait depuis 1945 un enseignement de théologie orthodoxe en langue française, publie donc en 1952 un ouvrage majeur sur les icônes intitulé, comme je vous ai dit, The Meaning of Icons, et en français, Le Sens des Icônes, qui vient de paraître aussi maintenant en roumain. Précédé de 3 études introductives, une série de 60 chapitres commente d'un point de vue historique, théologique et liturgique l'iconostase, la Sainte Croix et les principales icônes du Christ, de la Mère de Dieu et des différents ordres des saints, ainsi que le cycle complet des icônes festives. Le tout est illustré chaque fois par d'excellentes reproductions d'icônes canoniques anciennes et contemporaines, ce qui était à l'époque la grande originalité de ce livre. Les icônes contemporaines, canoniques. Presque la moitié, c'est-à-dire 28 sur 66 chapitres, ont été écrits par Vladimir Vostok. Notons que plus d'un tiers, soit 10 sur 28, traite d'icônes mariales et également 10 sur 28 d'icônes festives. Voici que dit de cet ouvrage celui que j'appelais tout à l'heure le premier des 3 docteurs russes de l'école néopatristique, le père Georges Florovski. Ce livre, Le Sens des Icônes, est un véritable exploit scientifique. Peut-être est-ce aussi la première tentative de présenter les icônes comme ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des témoignages de la foi. Retenons d'abord l'essentiel de l'introduction au chapitre consacré aux icônes du Christ, où Vladimir Vostok commence par citer le Kondakion du triomphe de l'orthodoxie, qui est en fait, comme tout le monde sait, le triomphe des icônes orthodoxes. Le verbe indescriptible du Père s'est fait descriptible en s'incarnant de toi, ô Mère de Dieu, et ayant rétabli l'image souillée dans son antique dignité, il s'unit à la beauté divine. Puis il explique, Vostok explique, ce Kondakion contient implicitement toute la doctrine sur ce que l'image par excellence, l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, Colossiens 1,15, l'hypostase du Logos, est une courte et claire révélation de la nature du Père. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu avait le Verbe divin comme archétype. C'est pourquoi l'incarnation du Fils renouvelle l'image qui avait perdu sa ressemblance par le péché de l'homme. Ce n'est pas seulement une théophanie parfaite, mais aussi la réalisation de l'homme parfait que le premier Adam avait été incapable d'atteindre. L'icône du Christ, le Dieu-homme, est l'expression graphique du dogme de Chalcédoine, car il représente la personne divine incarnée, le Fils de Dieu devenu Fils de l'homme, consubstantiel au Père par sa divinité et consubstantiel à nous par son humanité. Si le Christ, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, si le Christ, le dernier Adam, se montrait comme l'archétype du premier homme, d'autre part, dans son économie rédemptrice, il prenait la ressemblance de la nature humaine déchue, qui est le contraire de la ressemblance, prenant l'aspect du serviteur de l'homme des douleurs du prophète Isaïe. D'où, tout en étant encore l'image véritable, le Christ a uni les deux aspects durant sa vie terrestre, celle de la ressemblance glorieuse et celle de la dissemblance kénotique, l'apparence de Dieu et l'apparence du serviteur. La première étant dissimulée par la seconde au regard extérieur. Même si ses proches disciples ont vu une fois, avant la Passion, le Christ dans son aspect glorieux, l'humanité déifiée au mont Tabor. L'Église qui voit le Christ avec les yeux d'une foi imperturbable, comme dit Loski, montrera toujours dans ses hymnes liturgiques et dans les icônes le Dieu-homme gardant sa majesté jusque dans l'abaissement. Plus loin, Loski introduit les icônes de la Mère de Dieu ainsi. L'Église a voué à la Mère de Dieu un culte d'hyperdulie en l'exaltant au-dessus des saints et des hiérarches des hiérarchies célestes. La place choisie pour la Vierge est centrale dans l'histoire du salut. Effectivement, la providence divine, en faisant droit à la liberté des créatures, n'aurait pas pu culminer dans l'incarnation du Fils de Dieu avant que la Vierge Sainte ait consenti à ce que le mystère qui avait été caché aux anges et aux générations, Colossiens 1, 26, ne soit réalisé en elle, en la faisant Mère de Dieu. C'est pourquoi saint Jean Damascène a dit que le nom de Théotokos contient l'histoire tout entière et l'économie divine du monde. Le dogme de la mariologie est contenu dans la christologie. On ne peut pas dénier à la Sainte Vierge la qualité de Mère de Dieu, comme le souhaitait Nestorius, sans faire injure au dogme de l'incarnation de la divine hypostase de son Fils. Ce n'est pas la nature humaine du Christ prise isolément par la personne véritable du Fils de Dieu, qui est né selon la chair de la Vierge Marie, une créature devenue apte par l'Esprit Saint à recevoir dans son sein le Verbe du Père venu dans le monde. La dernière partie de ce bref communication s'appelle « La tradition, c'est l'esprit critique de l'Église ». J'ai beaucoup aimé cette formule de Loski. Je voudrais introduire la dernière partie de ma petite causerie aujourd'hui. La tradition, c'est l'esprit critique de l'Église. Ainsi, l'importance et surtout la nouveauté de cet ouvrage, The Meaning of Icons, réside dans son approche de l'icône et de l'art sacré en général. Ce livre magistral, qui fut à la fois le fruit de ses propres recherches et de son amitié avec Leonid Uspensky, lequel s'étant imprégné de l'éthos des pères grâce à Loski, l'aidait à son tour à mieux lire le langage formel des icônes et ainsi au mieux discerner le mode d'expression de leur sens dogmatique, ne se présente ni comme un livre d'archéologie, ni d'histoire de l'art, mais comme une tentative de situer l'image dans l'ensemble de la tradition orthodoxe et de comprendre sa spécificité à la seule lumière de cette tradition. C'est donc pas par hasard que le livre commence par un essai de Wojnarowski sur la tradition et les traditions, pour nous permettre de prendre la mesure de la réelle nouveauté d'une telle approche qui semble acquise aujourd'hui, mais qui fut loin d'être communément admise il n'y a même pas une soixantaine d'années, je voudrais citer la réaction assez surprenante d'une sommité en la matière, l'académicien André Grabar, qui, dans un compte rendu passablement irrité dans son périodique, les cahiers archéologiques qu'il dirigeait pendant de longues années, remarque que cette étude savante, c'est-à-dire « The Meaning of Icons », cette étude savante consacrée à la tradition dans l'Église se tient trop loin des problèmes que pose la tradition des peintures religieuses pour servir d'introduction à leur étude. Et il conclut, on aurait mieux fait de l'imprimer ailleurs. Il en va tout autrement pour nous qui savons depuis Saint Jean Damascène que celui qui rejette la tradition iconographique de l'Église finit aussi par rejeter des autres traditions et finalement même la tradition, puisqu'il l'aura portée atteinte à la vérité de l'incarnation divine. Aussi terminerai-je par quelques brèves remarques sur cette étude fondamentale que je vous recommande, surtout en roumain, pour une juste compréhension de l'icône orthodoxe. Wojnarowski, après avoir rappelé l'analogie entre les saintes images et les écritures, établit clairement par les iconodules, oui, cette analogie a été établie par les iconodules, et Wojnarowski donc souligne que tous les deux, c'est-à-dire les saintes écritures et les saintes images, sont des expressions de l'inexprimable, devenues possibles grâce à la révélation de Dieu qui trouva son accomplissement dans l'incarnation du Fils. Il en est de même pour les définitions dogmatiques, l'exégèse, la liturgie, pour tout ce que dans l'Église du Christ participe à la parole qui est contenue par les Écritures sans y être limitée ou amoindrie. Sur les Écritures et tout ce que l'Église peut produire en parole écrite ou prononcée ou représenté en image ou en symbole liturgique, représente les modes différents de l'expression de la vérité, des modalités différentes de l'expression de la vérité. La tradition est le mode unique de la recevoir. Nous disons mode unique et non pas mode uniforme, car la tradition, dans sa notion pure, n'a rien de formel. Elle n'impose pas à la connaissance humaine des garanties formelles des vérités de la foi, mais fait découvrir leur évidence intérieure. Elle n'est pas le contenu de la révélation, mais la lumière qui le réveille, qui révèle ce contenu. Elle n'est pas le contenu de la révélation, mais la lumière qui le révèle. Elle n'est pas la parole, mais le souffle vivant qui fait entendre la parole en même temps que le silence dont elle sort. On pourrait donc définir la notion pure de la tradition en disant que c'est la vie de l'Esprit-Saint communiquant à chaque membre du corps de Christ la faculté d'entendre, de recevoir et de connaître la vérité dans la lumière qui lui est propre. Toute transmission d'une vérité de la foi implique donc une communion de la grâce du Saint-Esprit. Or, si la tradition est une faculté de juger dans la lumière du Saint-Esprit, elle oblige ceux qui veulent connaître la vérité dans la tradition à des efforts incessants. On ne reste pas dans la tradition par une sorte d'inertie historique, en gardant comme une tradition reçue des pères tout ce qui, par la force de l'habitude, flatte une certaine sensibilité dévote. Autrement dit, l'argument présenté comme irréfutable et trop souvent répété pour défendre et surtout maintenir contre vent et marée telle ou telle vénérable coutume, entre guillemets, ou plutôt vieille habitude liturgique, ou encore telle iconographie totalement erronée, devenue de toute évidence obsolète, cet argument que l'on peut résumer ainsi, nous avons toujours fait ceci comme cela, et changer signifierait l'abandon de notre tradition. Nous pouvons être sûrs que Vladimir Lossky nous dit qu'il s'agit là d'une ineptie du point de vue de la véritable tradition. Au contraire, il insiste, c'est en substituant ce genre de tradition à la tradition de l'Esprit-Saint vivant dans l'Église que l'on risque le plus souvent de se trouver en dehors du corps du Christ. Il ne faut pas croire que seule l'attitude conservatrice soit salutaire, ni que les hérétiques fussent toujours des novateurs. Et nous voici arrivés à la phrase clé de ce beau texte. La tradition représente l'esprit critique de l'Église. L'essentiel est dit. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre. Il faut créer des icônes, des fresques, des hymnes liturgiques, des prières, en se laissant guider par l'éternelle nouveauté de cet esprit critique de l'Église qu'est la tradition. Car c'est bel et bien un appel à la créativité que Vladimir Lossky nous lance ici. Je vous remercie pour votre attention.